Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Et oui, Tech & Co, la quotidienne, on débrief ensemble l'actu tech avec ce soir sur le plateau. Eh bien, nous avons Frédéric Krebs. Salut Fred.
Bonsoir François.
Ravi de te retrouver Frédéric. Frédéric qui est président de Krebs & Partners. Tu as été aussi le patron d'Allociné pendant plusieurs années. Tu as travaillé aussi dans des grands studios de ciné hollywoodien, je crois. Merci d'être là parce que l'actualité en plus va t'intéresser tout à l'heure. On va évoquer un sujet qui, je le sais, te tient à cœur. À tes côtés, c'est André Losgood-Pietri qui est là. Salut André.
Salut François.
André qui est le président du JEDI, le Joint European Disruptive Initiative. Est-ce que tu étais à Vivatech?
Bien sûr.
Pas mal quand même.
Ah, c'était très bien.
Intéressant, souveraineté, des boîtes formidables. Tiens d'ailleurs, je fais un peu ma pub. Sachez que la semaine dernière, nous étions à Vivatech. Vous pouvez retrouver tous les replays, tous les podcasts de cette émission avec des invités quand même assez prestigieux. Hein. Le patron d'ASML qui était sur notre plateau et qui expliquait eh bien le rôle incroyable de cette boîte européenne qui eh bien régit en quelque sorte toute l'électronique mondiale. Hein. Il faut quand même être fier de tout ça. Et on a eu aussi un porte-parole d'OpenAI et beaucoup d'autres invités. Donc à retrouver en replay sur BFM Business, mais aussi sur la chaîne YouTube de BFM Tech. Et Lucas Perraudin est avec nous aussi. Salut Lucas.
Bonsoir François.
Fondateur de AI Partners et auparavant tu étais chez Meta.
AI to Market, on a rebrandé il y a longtemps.
Ah bah attends, oui.
C'est écrit là.
AI to Market et non pas AI Partners, voilà. On a fait la petite correction. Et auparavant, je le disais, tu étais chez Meta et tu avais un poste très élevé au niveau européen pour tout ce qui touchait à l'AR et la VR chez Meta. Merci d'être là tous les trois. On va commencer par justement Meta. Ça tombe bien, petite dédicace. Meta qui lance sa propre gamme de lunettes connectées pour atteindre un plus large public. L'objectif est également de conserver son avance sur Google et bientôt aussi Apple, puisque on le sait, Apple est dans les starting blocks. En fait, Meta qui a manquer le virage du smartphone ne veut pas manquer celui des lunettes IA. Frédéric Simotel nous explique tout ça et puis on revient après sur ce plateau.
C'est un peu ça. Jusqu'ici, avec Ray-Ban et Oakley, le modèle était assez simple. Hein. Et si leur Luxottica apportait ses marques, son design, tout le circuit logistique, la distribution et la légitimité sur le marché de la lunetterie. Et Meta apportait la technologie, caméra, audio et la plateforme d'intelligence artificielle. Mais l'Américain se sentait un peu à l'étroit dans ce partenariat. Mark Zuckerberg a plusieurs fois tenté de faire baisser les prix, mais l'industriel européen restait campé sur ses positions. Avec les Meta Glasses, Meta dispose enfin de sa propre gamme de lunettes connectées en associant l'influenceuse Kylie Jenner au design, il cherche à atteindre un public beaucoup plus large et ne veut plus être seulement le fournisseur de technologie caché derrière les Ray-Ban. Il veut en contrôler davantage le design, les formes, les couleurs, les collaborations et surtout les prix. Hein. On parle d'une gamme à $300. Et enfin, le positionnement marketing. À l'instar d'Apple, Meta se comporte autant comme une marque de mode que comme un fournisseur de technologie. Pas d'ambivalence en outre avec Essilor Luxottica qui lui apporte l'outil industriel, les usines, le savoir-faire optique, le réseau mondial d'opticiens. Clairement, le géant américain veut capter et maîtriser une partie de la valeur matérielle en vue des batailles futures face à Google, Apple et des acteurs chinois. Il veut reproduire avec ses lunettes IA ce qu'Apple a réussi avec l'iPhone.
Voilà donc pour ces explications signées Frédéric Simotel. Alors, on va commencer par toi, Lucas, parce que évidemment c'est un sujet que tu connais bien. Tu as travaillé longtemps chez Meta. Tu connais un petit peu l'ADN de cette boîte-là. Logique, a priori, hein, de se dire que bah, finalement on est parti sur le très haut de gamme et comme toujours on ruisselle pour que cette technologie de lunettes connectées, qui visiblement a l'air de prendre, bah, puisse toucher le plus grand nombre.
Effectivement logique. Peut-être par souci de transparence, je veux aussi expliquer que AI to Market, Meta au niveau global pour leur stratégie wearables, donc lunettes, et notre client, et Essilor aussi.
Voilà.
Donc on a un doigt dans chaque dans chaque prise, juste pour être clair. Et donc je veux pas de langue de bois, mais je préfère que les gens sachent d'où je parle.
Et en gros, pour tout vous dire, Lucas, c'est plein de trucs dont il ne peut pas parler ce soir. Concernant le futur de Meta, etc.
Voilà, voilà. Je veux éviter de perdre tout mon patrimoine. Non, mais de toute façon, enfin, comme d'habitude, on va être très transparent. Donc, logique, oui, pour une couverture de marché. Alors, ces produits, ils sont hybrides. Parce que des lunettes, c'est un produit optique et un produit consumer electronics à la fois. C'est un produit d'électronique.
Oui.
Et donc, il faut être présent sur les deux marchés. C'est extrêmement compliqué. En gros, si on veut remplacer les téléphones mobiles par des lunettes connectées, 50% des humains ont besoin de correction. Donc on a besoin d'être dans les canaux de correction, etc. Et ça, c'est une distribution qui est très compliquée. Enfin, la logistique pour que vous ayez vos lunettes avec la bonne correction en 24 heures, elle est monstrueuse. La supply chain derrière ce truc-là, c'est monstrueux. Donc on est obligé de s'associer. Et puis il n'y a pas beaucoup d'autres acteurs dans le monde que Essilor. En fait, c'est le prochain concurrent qui a ce niveau d'accès au marché. Il est un sixième de la taille. Donc il faut forcément y être. Mais aussi, on parlait d'Apple, on parlait de Google. Ces gens-là viennent, eux, du marché du consumer electronics, de l'électronique grand public. Et donc, il faut être présent dans ces magasins-là. Il faut avoir des prix qui soient adaptés, des façons de gérer, comme disait tout à l'heure dans le reportage, le marketing, la promotion qui soit de ce domaine-là, c'est plus réactif, il y a plus de changements, il y a plus d'adaptation de prix, il y a plus de variations dans le temps. Les lunettes, ça coûte à peu près le même prix toute l'année. Il y a du Black Friday, il y a tout un tas de promotions dans le consumer électronique qu'on peut pas répliquer. Donc ça permet aussi d'avoir cette flexibilité, cette couverture de marché, et c'est vraiment ça qu'ils sont en train d'essayer d'avoir, parce qu'effectivement il y a énormément de lunettes qui sont vendues.
Et si l'or ne sera pas véritablement mis en avant comme il l'est mis aujourd'hui avec Ray-Ban, c'est presque une marque blanche là dans ce cas précis.
C'est une marque propre, c'est une marque Meta.
D'accord. Annoncée. Et c'est Meta qui a confié la fabrication de ces lunettes à Essilor.
A priori, c'est Meta qui fabrique.
Non, c'est Essilor.
C'est
Essilor Luxottica.
Ok.
Les deux marques, les deux marques sont au sein des lunettes, quand tu regardes
sur
au niveau des branches.
Sur ce modèle
à l'intérieur.
Ok.
Bon, alors, intéressant, bien sûr. Est-ce que tout cela est pertinent? Qu'est-ce que vous en pensez, Fred, et puis après André?
Moi, je salue. Si je prends un pas de recul sur toute l'histoire en fait de ces lunettes connectées, moi, je trouve que Meta a fait des coups de maître au niveau marketing. C'est-à-dire qu'il faut quand même se souvenir d'un truc, c'est qu'on part d'une situation où Google avait lancé en 2015 la fameuse Google Glass.
Oui.
Qui avait été un four complet avec une vraie défiance de la part des utilisateurs qui n'en voulaient pas parce que c'était trop intrusif, c'était trop visible, parce que c'était un gadget. Google avait lancé en fait un gadget et les gens n'ont pas adhéré du tout au principe. Ensuite il y a Snapchat, Snap qui lance toujours donc les Spectacles qui sont aussi des lunettes connectées
et qui vient de lancer ces nouveaux, enfin qui s'apprête à lancer ces nouveaux modèles.
C'était très mal reçu par le marché, effectivement. Parce qu'ils sont loin de l'objectif en termes de d'encombrement, de qualité, etc. Ça fait tanker l'action littéralement la semaine dernière. Ils sont loin derrière.
C'est vraiment loin derrière. Donc, Snap n'est pas réussi en tout cas à diffuser en fait ces lunettes, en tout cas au niveau des objectifs attendus. Et là où Meta a été extraordinairement malin, c'est que ils ont utilisé la plateforme donc Essilor Luxottica, ils ont utilisé les marques Ray-Ban et Oakley en fait pour pouvoir injecter en fait leur savoir-faire technologique. Et là, l'acceptation s'est tout de suite matérialisée. Et avec aujourd'hui, alors je connais pas exactement le nombre exact d'exemplaires qui ont été vendus dans le monde, mais on parle
de 7 millions.
Ouais, voilà, de 7 millions. Donc c'est un véritable succès. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que comme ils savent que Apple va arriver en fait sur le marché et que d'autres vont arriver sur le marché en fait des lunettes connectées, il passe par un prix beaucoup plus bas pour en fait rincer le marché et en fait avoir la primeur et la force en fait d'être présent sur ce marché.
C'était la stratégie sur la VR aussi. Quand le Pro Vision Pro est sorti, la première chose qu'a fait Mark Zuckerberg, c'est faire une vidéo en disant si vous regardez les spécifications d'une autre et le prix, c'est mieux pour un tiers du prix. Ça ne change rien à l'attrait de la marque, etc. Donc ça c'est vraiment la stratégie de Meta, l'accessibilité en fait à tout le monde et couvrir le marché de manière extensive.
Donc voilà, oui, c'est vrai qu'il y avait un petit flottement, mais je te confirme qu'elles sont bien fabriquées par Essilor Luxottica, même si la marque n'est pas véritablement mise en avant, c'est-à-dire qu'elle c'est pas les lunettes emblématiques comme les Ray-Ban ou les Oakley.
Non, c'est un peu la, tu parlais de marque blanche, François, c'est un peu la marque blanche inversée, c'est-à-dire que normalement dans la grande distribution distribue des produits premium avec des marques dans les différents domaines et fait produire par ces mêmes producteurs à sa propre marque, c'est souvent l'entrée de gamme. Là, ce qui est assez intéressant, et je suis complètement dans la lignée de ce qui vient d'être dit, c'est que Meta d'abord, s'est appuyé sur des gens qui savaient faire des lunettes, et surtout, ça a été vraiment un défi d'engineering, notamment l'équilibre, de pouvoir mettre les semi-conducteurs, la batterie, et tout ça de manière assez équilibrée, sans que ça soit gros. Ça, c'était vraiment une prouesse de hardware, et ils ont raison de continuer à bâtir sur le savoir-faire de Luxottica. Ensuite, ils ont une stratégie classique de, il y a un entrée de gamme pour, qui sera à la marque Meta, il y a le premium qui reste Ray-Ban et Oakley. Non, c'est assez malin, et ils ont l'intelligence de garder la distribution qui, comme tu l'as dit, est extrêmement complexe.
L'accès, market access dans
ce domaine.
Que ici,
la vraie question, c'est est-ce que si véritablement les Européens avaient un tout petit peu plus de courage, pourquoi est-ce que Luxottica ne se dit pas, attendez, je suis dans l'hardware, pourquoi j'essaye pas, c'est une occasion en or de rentrer, ou du moins d'apprendre. En fait, ce que fait Meta, c'est une stratégie qu'ont fait les Chinois pendant 30 ans. Une stratégie de joint venture, on apprend, et maintenant on lance son propre modèle. Donc il y a comme un vrai risque à terme, peut-être pour Luxottica, de se retrouver finalement des fournisseurs de quelque chose qui aura été commoditisé après avoir été très difficile.
Et c'est vrai qu'André a raison, finalement, excuse-moi, je te coupe, mais c'est pas le plus compliqué. Enfin, aujourd'hui, tu vas voir des industriels chinois, ou même tu mets quelques milliers d'ingénieurs pendant quelques mois, ils arrivent à te fabriquer ça. Tu vois.
Alors oui, mais il a fallu mettre 14 milliards sur le problème pendant 8 ans.
Oui, c'est ça.
Avant que ça devienne une commodité et que tout le monde sache comment intégrer tout ça. Parce que la recherche-développement open source, c'est Meta qui l'a fait. Moi, j'ai visité les labs il y a très longtemps. Il y a tout un tas de choses qui sont mainstream maintenant, qui ont été copiées et reprises, qui n'existaient pas, qui ont été inventées par les équipes Meta pour que cette technologie devienne omniprésente. Et l'idée, c'est aussi, dans la tête de Zouk, c'est que on va remplacer iOS avec MetaOS, donc qu'on soit l'operating system et l'App Store de ces choses-là. Il y a quand même un point qui est hyper important, on parlait des Google Glass, etc. Il faut quand même, il y a un truc qui a permis cette propagation de la technologie, c'est que c'est les LLM, parce que finalement, ces lunettes, elles n'ont pas d'écran aujourd'hui. C'est des assistants multimodaux, on peut discuter avec elles. En gros, c'est ChatGPT à l'intérieur des lunettes.
Il y a un modèle qui est disponible aux États-Unis,
oui,
qui n'est pas disponible.
C'est un modèle
en France.
De niche,
qui est un peu expérimental, on va dire.
Exactement. Mais en fait, les millions d'unités dont on vient de se parler, on est passé de VR à AR, qui était le seul plan, donc avoir des écrans face à nous, à ce que l'IA générative a permis, c'est d'avoir ce produit intermédiaire avec uniquement des caméras, des micros et des haut-parleurs, donc pour capter et discuter, qui permettent de mettre des lunettes sur la tête des gens, d'apprendre plein de trucs sur les usages en attendant que les écrans soient prêts. Donc il y a quand même une rupture technologique au milieu. C'est
en fait, on a simplifié, mais on peut se dire que la prochaine génération intégrera peut-être des modèles.
Les écrans, ça arrive.
Avec
ça va être intéressant de
plus frugaux,
de ce que tu dis, c'est que est-ce que finalement, Essilor Luxottica va s'émanciper de Meta pour fabriquer elle-même son hardware.
Juste un petit mot, alors c'est plus compliqué, c'est beaucoup plus compliqué que ça. La technologie est extrêmement compliquée. Qui fabrique les outils, qui a les lignes, c'est beaucoup plus imbriqué que ça. C'est très compliqué à démêler, à dire l'un fabrique, l'autre fabrique. C'est vraiment un partenariat sur long terme, et ça nécessite... on va dire que la partie électronique, c'est pas non plus le cœur de métier des silos traditionnellement. Donc il a fallu que...
Oui, mais c'est pas le cœur de métier de Meta aussi au départ.
Avec le rachat d'Oculus et de tout le travail qui a été fait, Meta est arrivé avec beaucoup plus d'ancienneté, de moyens, et puis aussi avec les investissements colossaux qui ont été faits. Donc dans le partenariat, cette partie technologique, elle est quand même très importante de la part de...
Je serais très curieux de savoir si Luxottica met des moyens aujourd'hui pour apprendre extra. C'est une opportunité en or pour eux de monter dans la chaîne. Alors, c'est sûrement très compliqué, mais sur la miniaturisation des batteries, sur potentiellement les écrans, etc.
Les antennes.
C'est extraordinaire.
Ouais, et puis, est-ce qu'un jour, Essilor Luxottica va pouvoir avoir d'autres partenaires technologiques que Meta, finalement? Est-ce que cette exclusivité, ce mariage entre ces deux géants, va durer de manière indéfinie? Est-ce que il a été, on va dire, signé pour une période bien donnée? C'est ça qui est intéressant.
Ce qui est intéressant, c'est la balance du pouvoir. Paradoxalement, Essilor a beaucoup de pouvoir dans cette conversation, parce qu'encore une fois, pour pouvoir mettre des lunettes correctrices sur la tête de l'humanité, il faut avoir un réseau de distribution qui soit près des gens, avec une capacité de correction. Tout ça, ça veut dire qu'il y a des laboratoires,
c'est le métier,
cuisines.
Dont c'est le métier.
Ouais. Voilà. Et c'est un métier très particulier, et dans lequel il y a beaucoup d'inertie. En fait, la barrière d'entrée dans cette distribution-là est très grande, et Essilor a une énorme part de marché. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas
c'est quand même
le déséquilibre habituel.
Ouais, c'est deux géants, là.
Et donc, Essilor, c'est une bonne mariée pour plein d'autres autres boîtes de
tech. Et d'ailleurs, il paraît qu'il y a des tensions entre les deux. Enfin, je veux dire, il paraît que c'est pas tout le temps un chemin tranquille.
Sans commentaire.
C'est peut-être un vrai mariage entre égaux dans ce cas-là. C'est ça. Il y a donc des tensions.
Pour terminer sur ce sujet.
Est-ce qu'on a un peu des retours sur l'utilisation effective en fait de ces lunettes?
Alors moi, je peux te le dire. Moi, ouais. J'ai la chance d'avoir une paire que je ne mets pas très souvent, j'avoue, parce que j'ai un problème, c'est que l'autonomie n'est pas bonne. Et aujourd'hui, moi, mes lunettes, parce que j'en ai vraiment besoin au quotidien, je les porte du moment que je me lève jusqu'à ce que je me couche. Et l'autonomie de ces lunettes tu peux pas tenir une journée. Et deuxième chose, au bout de quelques heures, je sens quand même le poids des lunettes sur mon nez, en tout cas sur l'arête de mon nez. Alors peut-être qu'elles sont mal réglées, etc. Hein, je dis pas, mais voilà, c'est pas aussi fluide qu'une paire de lunettes toute simple. Voilà. On referme la parenthèse et on enchaîne avec une autre grosse actu liée aux médias. Ça a été le top départ, hein, il y a quelques heures, pour le deal entre TF1 et Netflix. Après l'annonce, il y a un an, de l'accord de diffusion des programmes du groupe sur la plateforme américaine. Et ça y est, il est désormais possible de regarder Koh-Lanta, The Voice et autres programmes phares de la chaîne sur Netflix, après avoir regardé Tech & Co, bien sûr. Hein, toujours Tech & Co en priorité, BFM Business. C'est une première au monde, ce partenariat, qui pourrait ouvrir la porte d'ailleurs à d'autres partenaires entre Netflix et des chaînes. Nathan Cocampo nous raconte tout ça.
35 000 heures de programme s'ajoutent au catalogue de Netflix. Les grands classiques de TF1, Koh-Lanta, The Voice, Massinger, des séries à succès comme HPI avec Audrey Fleurot, mais également les journaux, émissions d'information de l'ensemble des chaînes du groupe, notamment LCI. Un deal gagnant-gagnant selon TF1, qui cherche toujours plus à élargir son audience en captant les plus jeunes. Le groupe français profitera aussi d'une plateforme reconnue pour sa fluidité et son ergonomie, qui pousse à la consommation. Côté Netflix, la quête d'un catalogue de plus en plus riche et diversifié est un poids de taille pour récupérer des abonnés. Un partenariat logique pour les deux géants, habitués aux coproductions de séries ensemble, comme Tout pour la Lumière, et qui s'inscrit pleinement dans la tendance actuelle des chaînes de télévision. France Télévisions est hébergée chez Amazon Prime et vient de nouer un partenariat de diffusion avec YouTube. M6 est sur Amazon aussi. La chaîne L'Équipe est sur Disney+. Netflix, qui ne ferme pas la porte à d'autres accords du même style avec d'autres chaînes traditionnelles dans d'autres pays. Des mots de son PDG Greg Peters, le partenariat avec TF1 pourrait servir de modèle.
Voilà, reportage signé Nathan Cocampo sur cette actu qui est média qui est très importante. Déjà, premier partenariat entre Netflix et un vieux média, c'est quand même assez intéressant. Alors toi qui as travaillé chez Allociné, qui suit évidemment l'actualité des médias et la transformation des médias depuis pas mal de temps, qu'en penses-tu?
Eh ben il y a plein de façons de voir ce deal. Il y a plein de façons de voir ce deal. Il y a une façon négative, il y a une façon positive. On va discuter de ça là maintenant. Il faut juste quand même remettre un peu tout ça dans son contexte. Hein. C'est-à-dire que quand Netflix arrive en 2014, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait fait une émission d'ailleurs ensemble en septembre 2014. Toutes les chaînes de télé classiques disaient attention, c'est les Américains qui débarquent.
C'est l'ennemi public numéro un.
C'était l'ennemi public
bien
numéro
sûr,
un.
Évidemment.
Même avec un petit peu d'arrogance, un peu de mépris, hein, de la part de ces. Ouais, vous faites pas de direct, vous faites pas d'infos.
Et les patrons de ces chaînes montaient au créneau en disant ils sont en train d'acheter tous les droits de toutes les séries, etc. qu'on ne peut pas diffuser. C'était la guerre.
Exactement. Donc un peu de mépris, et c'est pour ça que c'est un peu drôle maintenant, 12 ans plus tard,
de
voir que la boucle se boucle finalement. Mais entre-temps, il y a eu quand même des initiatives de la part de toutes ces chaînes. Hein. On se souvient de Salto, par exemple. Hein. La tentative que TF1, M6, France Télévisions ont essayé de se mettre d'accord pour lancer une sorte de contre-Netflix
qui a été fait à reculons, n'importe comment.
Après, c'est toujours très compliqué dans le monde des médias.
C'est facile de commenter un échec, mais bon.
Voilà, ils ont tenté le coup et ça a été lancé en 2020, ça a fermé en mars 2023. Il y a eu, en mars 2023, je crois que c'était aux alentours de 500 000 abonnés payants. Hein, faut pas oublier que de l'autre côté, aujourd'hui, Netflix est en France, hein, c'est 15 millions d'abonnés payants. C'est 30 millions de spectateurs uniques par mois, Netflix. Donc c'est ça aussi que TF1 va chercher. Donc voilà, donc Salto, ils ont pas réussi à lancer un truc solide, ça a fermé. Ensuite, faut pas oublier que TF1 et M6 ont essayé de se fusionner. Là, pour des raisons, on va dire, de régulation, ça n'a pas pu se faire. Donc ils ont quand même essayé de se battre.
Pour l'instant, parce que le sujet est toujours. plus ou moins d'actualité.
Oui, ouais, mais j'ai pas l'impression que ça va avancer.
Tu verras dans 2-3 ans. Quand les obligations d'RTL, parce que vous savez que le groupe, c'est quoi? C'est Bertelsmann.
Bertelsmann.
Voilà, ils sont obligés d'attendre, je crois, encore 4 ans, suite à l'autorisation des fréquences TNT qu'ils ont eues. Ils sont obligés d'être encore actionnaires du groupe M6 et de RTL pendant 4 ans. Mais dans 4 ans, rien ne leur empêche de revendre tout ça. Donc, on en reparlera.
Ah oui, mais il faut pas oublier que là, c'est les deux, enfin c'est TF1 et M6 qui ont abandonné en fait l'idée de fusion.
Hein, oui.
Pas une demande du régulateur. Et ensuite, TF1 a lancé en 2024 TF1+. Là aussi, tout seul en solo, leur propre plateforme et donc avec l'essentiel des contenus qu'on va voir sur Netflix, enfin qu'on voit maintenant sur Netflix. Donc c'est assez marrant qu'aujourd'hui, Rodolphe Belmer, donc le patron de TF1,
qui a été au bord de Netflix auparavant.
Absolument, il faut quand même faciliter.
Voilà, il faut quand même. C'est aussi une histoire d'homme de tout ça. C'est ça qui est intéressant, c'est que Rodolphe Belmer travaillait pour Netflix avant d'être patron de TF1. Donc je pense qu'il avait ses connexions et qu'il a aussi insufflé ce partenariat.
Et je pense à raison parce que en fait le travail de TF1, c'est de maximiser ses audiences pour l'ensemble des contenus qu'il produit. Et ça, je pense que c'est un bon deal. En tout cas, c'est un deal intelligent, on va dire, sur le court terme, hein, parce que il y a tout un ensemble énorme, un bassin d'audience énorme, notamment chez les jeunes qui ont l'habitude de regarder Netflix régulièrement. Ce deal-là est important pour TF1. C'est un deal qui est même pas défensif. Au contraire, que je trouve offensif, et c'est une première mondiale. Bravo Rodolphe Belmer, c'est un sacré coup. Derrière ça quand même, il faut pas oublier que dans 5 ans, dans 10 ans, comme la plupart des gens auront l'habitude de rester peut-être sur Netflix pour regarder du TF1 quelque part, et si Netflix décide de changer son algorithme pour une raison ou pour une autre, de changer
la ou de dire merci beaucoup TF1, c'était sympa, mais on arrête notre partenariat.
Exactement.
Et rappelons que la TNT est en train de décliner, qui est on va dire l'un des principaux canaux de diffusion de la télévision, hein. On se rend compte que la TNT est de moins en moins utilisée par les box, par les plateformes de streaming, etc. C'est vrai que c'est quand même un risque.
Ah ben, c'est le risque majeur. C'est que l'habitude soit complètement prise. Il y a une habitude encore plus forte qui est prise aussi avec YouTube, hein, parce que qui reste aussi le diffuseur le plus important, notamment si on regarde les dynamiques aux US. Donc ici en France, voilà, ça va être un pli qui va être pris dans ce sens-là. Et donc on verra bien si ce pari est gagnant en fait sur le long terme. Sacré pari.
Ouais, rappelons hein, quand même que si vous avez Netflix, peut-être l'avez-vous vu depuis quelques jours, vous appuyez sur un bouton, vous avez tout TF1. C'est bizarre hein, quand même. Hein. C'est étonnant. D'ailleurs, c'est un peu perturbant parce que moi, typiquement, j'ai un abonnement sans pub de Netflix et je me retrouve avec du contenu TF1 financé par la. Enfin, où il y a de la pub. Je veux dire, je trouve que ça dégrade un peu aussi l'expérience utilisateur que tu peux avoir pour Netflix, que tu payes cher maintenant. Je paye très cher pour avoir un compte premium, etc. Donc c'est pas transparent.
Ce qui va être clé, c'est la mesure publicitaire. C'est-à-dire que si Netflix expose à ses 30 millions de spectateurs uniques ou téléspectateurs uniques, il faut que TF1 soit capable d'attribuer ses téléspectateurs aux publicités qu'ils diffusent pour pouvoir monétiser ça. C'est aussi une manne publicitaire si le flux marche bien pour eux.
Ouais, mais quand tu payes, je sais pas moi, 20 balles par mois pour avoir Netflix,
ça dégrade l'expérience.
En premium, voilà, et que tu tapes toutes les pubs de TF1.
Juste une question.
C'est un peu
violent. Donc moi j'habite en Angleterre, j'ai vu l'accès depuis là-bas. Normalement, ça doit pas être possible, mais j'ai vu en tout cas.
Ouais, mais parce que t'as un VPN, t'es un bidouilleur.
Pas du tout. Et j'ai vu autre chose qui m'a marqué, c'est que je vois M6 sur Amazon Prime.
Oui.
Je sais pas si c'est exclusif aux gens qui sont à l'extérieur de la France ou si en France aussi. Donc, par exemple, la Coupe du Monde en français, M6, je la vois sur Amazon Prime, moi.
En Angleterre.
Ouais.
Et ça, c'est bizarre parce qu'en théorie, ça devrait pas marcher.
C'est étonnant.
Il y a des problèmes de droit. Normalement, tu devrais pas y accéder en Angleterre.
Ça marche.
Parce que, et d'ailleurs, ce deal TF1 Netflix n'est valable qu'en France.
En France, ouais.
Tu sors des frontières françaises, ça ne marche plus. VPN. Tu regardes un petit peu ce qui s'est passé.
Ça devait
là,
être dans le tunnel sous la Manche.
Ouais, 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 c'est peut-être une histoire de VPN. Alors.
Je pense que c'est une histoire de VPN. Ou alors, c'est parce que tu as créé ton compte peut-être en France que Netflix ou Prime te considère comme français, même si tu es en Angleterre. Il y a peut-être un truc comme ça. Mais en tout cas, tu as un compte Prime anglais et un Netflix anglais, t'as pas TF1 et t'as pas...
Et donc M6 Prime, ça existe aussi.
Oui.
C'est aussi une tendance.
Oui, c'est vrai. Ça fait moins de bruit, mais c'est vrai que Prime, et je crois qu'ils ont France Télé aussi.
France Télévision,
Ouais. André, t'as suivi tout ça, bien sûr.
Alors, non, pour moi, je pense que c'est quand même un sujet assez défensif. Le coût pour TF1, c'est de rajeunir son audience, ça c'est très clair, d'accéder à cette manne de 30 millions. Là, la dépendance, enfin, on parlait du fait que tout à l'heure que Meta s'affranchissait de Ray-Ban, mais ça sera probablement la même chose qui va se passer. À un moment, TF1 va devenir massivement dépendant de l'algo, de l'algorithme utilisé, et c'est finalement Netflix qui va décider ce qui remonte ou pas comme contenu. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, on vient de dire avec M6 et France Télévisions qui sont aussi sur Amazon Prime, on a de plus en plus les contenus de nos chaînes françaises sur des plateformes américaines. C'est quand même, sur ce point-là, sans être chauvin, je commence à avoir un vrai souci, parce que ça veut dire que de plus en plus, l'accès au contenu sera complètement contrôlé par des plateformes non françaises et non européennes.
Il y a du gatekeeping, exactement comme dans...
Et c'est les gatekeepers qui font la valeur.
Ce dont on parle sur les app stores, où il y a deux app stores qui ont 97% de market share, de part de marché, pardon, je vais parler français. Et le risque est ça, c'est la consolidation des portes d'entrée sur trois plateformes avec...
Parce que ce qui a été dit tout à l'heure sur M6 et TF1, oui, c'est les deux sociétés qui ont décidé, mais ma compréhension, c'est qu'elles avaient quand même assez peur du régulateur, qui certes n'a pas eu besoin d'intervenir, mais il y a toujours cette espèce d'épée de Damoclès. Là, ça sera quand même assez intéressant. En fait, on empêche la consolidation au niveau franco-français, ou en tout cas, elle n'est pas favorisée. Et en fait, ça incite les acteurs qui sont sous critique en termes de taille. On parlait de 500 000 pour la plateforme streaming enfin pour Salto, finalement de devoir passer par des plateformes américaines. Donc c'est là où on se rend compte que le régulateur, en tout cas la régulation, a besoin d'évoluer extrêmement vite pour ne pas être à la traîne de l'évolution et de ces grands chambardements.
Il n'y a qu'un acteur français qui arrive à faire l'inverse, c'est Canal, qui, rappelons-le, est un peu un diffuseur qui, justement, héberge dans son interface des partenaires américains. Par exemple, Paramount ou Apple. HBO, etc., etc., ou Apple TV. Donc, voilà.
Mais Canal perd son monopole.
C'est intéressant parce que l'ancien patron d'Apple, de Canal, ben, c'était justement Rodolphe Belmer.
Mais c'est intéressant parce que Canal perd, en fait, son rôle de... C'était le seul à avoir le monopole d'indicateur. Aujourd'hui, on commence à voir.
En tout cas, j'espère qu'ils ont une stratégie multicanal avec du YouTube, de la plateforme propre. En fait, il va falloir se garder des options. Il va falloir donner des plateformes de contact avec les spectateurs pour pouvoir les rattraper dans les différents tuyaux.
Mais toutes ces plateformes sont américaines. C'est ça le problème. Ouais.